Bonjour Marie.
Bonjour.
Je voulais te remercier dans un premier temps parce que je sais que tu, d'après ce que tu m'as expliqué il y a quelques instants, tu as fait la fête toute la nuit, l'alarme s'est déclenchée il y a quelques instants, la police t'a appelé il y a 5 minutes et toi tu as répondu « Ah, comment ça se fait que ça peut y si tard ?» Donc je voulais te remercier d'être présente à notre rendez-vous. C'est bien ça, t'as fait la fête toute la nuit.
Non, je suis sortie du bureau, il était 21h30. Donc non, je n'ai pas fait la fête toute la nuit.
Bah pourquoi tu m'as dit il y a quelques instants que tu avais fait toute la fête toute la nuit qu'en fait l'alarme s'était déclenchée ?
Non, mais c'est parce que quand vous m'avez appelé, j'avais oublié d'enlever l'alarme et alors on s'était une petite blague et comme vous avez beaucoup d'humour, on a beaucoup avancé, mais la petite histoire était fausse, je n'ai pas fait la fête toute la nuit et voilà.
Alors je voudrais dès le départ bien poser les bases, Marie, si tu me permets. C'est Prisca qui est responsable de notre mise en contact et Prisca Lona, qui est une formidable comédienne, a simplement oublié de te dire qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas me dire à moi quand on démarre une interview. C'est tout. Bonjour, à qui ai-je le plaisir? Alors, que fais-tu dans la vie et qui es-tu?
Je m'appelle Marie Broche.
Bonjour Marie
et
Broche.
Puis, bonjour. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été dans le théâtre et qui, depuis mes 3 ans, viennent régulièrement au Festival d'Avignon avec... assez rapidement un lieu. Et puis maintenant, ça fait 40 ans qu'ils font ça et ça fait à peu près 10 ans que je me suis associée à eux. Il y a 5 ans, on a acheté un nouveau lieu, Espace Roseau Teinturier. Avant, c'était de la location qu'on faisait. Donc depuis 5 ans, on est chez nous. Et voilà, et donc c'est un plaisir de travailler associée avec ses parents, son conjoint, le directeur technique. C'est une vraie histoire de famille, mais qui a la chance d'exister depuis mon âge, 40 ans. Donc en fait, il y a une énorme solidarité, il y a des gens qui passent juste pour dire bonjour, il y a, voilà, c'est... J'aime à dire qu'on essaie de tout baser vraiment sur l'humain et sur l'échange et de se dire qu'on a la chance en fait de faire ces métiers-là et que quand le Festival d'Avignon commence, ça doit être une énorme fête. Je suis toujours hyper touchée par le nombre de spectateurs qui arrivent. Il faut savoir que ces gens prennent des vacances pour venir au théâtre, achètent des tickets de train, des hôtels, des sandwichs, font la queue au soleil. Et finalement, nous aident à tenir, nous, toutes les compagnies et tout le théâtre français, en fait, parce que ce marché du festival n'est pas si simple. Mmh. Voilà. Donc je pense qu'on se doit tous de sourire, d'être beau, de faire tout pour que la fête soit là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Je crois qu'Avignon, c'est une ville, du moment que tu transpires et que tu te dépasses, elle te rend. Mais si tu passes pas ce cap, elle est difficile. Voilà. Donc effectivement, le festival est toujours un dépassement et on essaye de l'accompagner dans la douceur, dans la bonne humeur, Avignon, il y a énormément de lieux. Je crois qu'on est à peu près 120 ou 130.
Oui, c'est ça.
On a tous un mode de fonctionnement complètement différent. Il y en a qui l'ont acheté il y a 40 ans. Il y en a qui ont des petits lieux. Il y en a qui sont des producteurs. Il y en a... Voilà, nous, à la base, on était une compagnie. Donc, le but était vraiment de créer un lieu où on soit chez nous et puis où on accueille les beaux spectacles qu'on avait envie de porter. Donc, voilà. Et puis pour être aussi très clair, pour moi le Festival d'Avignon, c'est des compagnies qui me louent un créneau, qui viennent à la maison. Mmh. Quand le festival commence, mes enjeux à moi, c'est que tout le monde soit heureux. En fait, j'ai plus d'enjeux financiers. Donc, franchement, si je ne souris pas, c'est que j'ai pas compris pourquoi je suis là. Voilà. En tout cas, je le vis comme ça. Essayer d'amener un petit peu, tout ça le plus humainement possible et que tout soit agréable pour tout le monde, même si c'est dur.
Tu nous as fait un peu ton historique à toi. Maintenant, pourquoi l'espace Roseau et pourquoi la rue des Teinturiers?
Pourquoi le nom espace Roseau?
Bah oui. Il y a des roseaux en Avignon, je ne savais pas. J'ai eu beau regarder, j'en ai pas vu.
Alors c'est un héritage. Donc, mes parents, quand ils ont créé leur compagnie, leur lieu, ils l'ont appelé Roseau Théâtre. Et on a eu un théâtre rue du Renard à Paris, derrière Beaubourg,
d'accord.
Qui était l'épicerie. Et puis on a eu 11 lieux ou 12. J'espère que mes parents ne voudront pas...
Ah, mais c'est une franchise alors.
Non, parce que c'était les uns derrière les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un lieu dans un hangar, le lieu marché. Il y a eu le Paris, les Lucioles, il y a eu le Capitole, il y a eu... si je vous disais tous les lieux qui n'étaient pas des lieux que mes parents ont inaugurés sur Avignon, seulement l'année d'après ou 2 ans après, le propriétaire reprenait, avait compris le potentiel et le louait plus cher à quelqu'un d'autre. Donc nous, on retrouvait un autre lieu.
D'accord.
Et donc on est resté... Le dernier lieu qu'on a fait, c'était rue Pétramale, Qui était pendant l'année le collège Saint-Michel, qui nous louait, et on est resté 11 ans ou 12 ans dans ce lieu, et enfin même plus, 15 ans je crois. Et on a eu la chance pendant 2-3 ans d'avoir les deux lieux en même temps.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, le collège Saint-Michel avait décidé de vendre le pâté de maison, mes parents avaient décidé de prendre leur retraite pour le coup d'arrêter. Et puis moi j'étais comédienne, je faisais un peu de mise en scène, mais voilà, et j'ai pris conscience que tout le sens du théâtre pour moi c'était vraiment d'avoir un lieu, en fait, qui pouvait me permettre de créer aussi mes spectacles, mais de faire des cours, mais aussi surtout d'accueillir, d'avoir des résidences, de
voilà,
c'est à l'année finalement, je suis toute seule dans ce théâtre avec mon conjoint et on fait un centre culturel avec du développement personnel, de la réinsertion à la soudure, de la danse de hip-hop. Enfin voilà, on essaie de faire des choses variées, mais toujours sur la rencontre, sur le rassemblement des gens, la discussion, le partage. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et donc pour le coup, quand mes parents m'ont parlé de arrêter l'espace Roseau sur Avignon parce qu'une retraite se dessinait, eh ben j'ai vendu les 27 mètres carrés que j'avais à Paris avec ma petite fille. J'étais une maman célibataire. Et puis j'ai décidé d'investir, ça a été mon apport, voilà, pour acheter, en disant à mes parents, je veux une transmission du vivant, en fait, c'est toute ma vie. Et est-ce que vous m'aidez? Et heureusement qu'ils ont accepté, parce que finalement, les banques n'acceptaient pas avec mon âge et n'acceptaient pas avec leur âge. Donc, il fallait leur expérience et mon âge pour arriver à avoir ce bien.
C'est intéressant de voir ces coulisses. Raymond de l'Espace Alia nous disait que c'était très important d'avoir son propre lieu fin à soi. C'était complètement différent que quand on venait juste pour faire une location. C'est quoi? C'est simplement que ça te permet de faire vivre le spectacle vivant tout au long de l'année, d'avoir des activités diverses. C'est la possibilité de faire toi-même ta propre programmation des spectacles que tu accueilles.
Tu fais toujours ta propre programmation parce que quand tu loues un lieu, finalement, tu lui donnes une autre couleur. Elle est complexe cette question parce qu'elle est encore sur le rapport humain. Ça dépend de l'échange que tu as avec ton propriétaire. Moi, je dirais plus les meubles en soi. C'est-à-dire qu'en fait, un théâtre qui est loué que pour le festival n'est pas voué à être un théâtre à l'année. Donc, ça veut dire que tout ce que tu construis une année, au lieu de l'année d'après aller encore plus loin et puis mettre du velours sur les murs, avancer plus, et ben, tu dois tout refaire. Et donc, en fait, ça te demande... voilà, ton investissement, il va être technique. De temps en temps, tu investis une plus grosse table de console ou quoi que ce soit. Mais après, les murs en soi, tu peux pas les habiller mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu pendant des années et qui peut être... Voilà. Après, sur l'espace Tétramel, on a eu la chance aussi que l'une de nos salles, on avait deux salles, ils l'ont gardé comme salle de théâtre pour faire des cours de théâtre à l'année.
D'accord.
Donc on a eu, voilà, dans l'ancien lieu qu'on avait, cette chance que sur les deux salles, il y en avait une qui restait et qu'on pouvait pour le coup pousser chaque année un petit peu plus loin. Mais je pense que le gros est là. Ouais.
D'accord. Dis-moi, quand on va sur ton site internet, on a un truc assez original. On a la programmation du Festival d'Avignon.
Pardon.
Hein?
Je n'ai pas compris la question.
J'ai dit, quand on va sur ton site internet, on a l'originalité d'avoir le programme du Festival Off d'Avignon 2019.
Oui.
Mais je crois... Enfin, on est en 2020, je crois.
Alors, je vais vous annoncer un truc incroyable.
Mais vrai.
On va faire une année blanche cette année.
Ouais. Non.
On va faire une année blanche cette année. Et moi, je crée mon site internet avec mon programme en même temps que le site en ligne se met en... Pardon, le programme du off se met en ligne et se construit. Donc cette année, les informations... le site n'a jamais été réellement ouvert. Il a été ouvert que quelques jours avant l'annulation du festival.
Bah oui.
Donc on a stoppé. Et puis on va ouvrir tout le site à partir du mois de septembre. C'est-à-dire que on a décidé avec les compagnies d'investir dans un informaticien donc qui va mettre en ligne le même programme que vous avez en ligne cette année mais pour l'année dernière, sauf que la vente des billets sera ouverte le plus tôt possible, ce qui permettra aux gens qui peuvent et qui savent qu'ils vont venir pendant le festival par exemple d'acheter un billet et puis les sous c'est directement aux compagnies. Donc pour le coup, ça ne fera pas grand-chose, mais ça les aidera toujours. Même s'il y a 50 billets de vendus, ça sera les tickets de train pour descendre au festival. Ça sera, voilà. En fait, pour nous, cette année blanche, je sais que sur les 130 lieux, comme je disais, chacun a une économie et une trésorerie différente. Nous, on ne peut pas se cacher. C'est-à-dire que quand on a décidé de partir sur ce lieu, par exemple, pour aller vraiment dans la transparence, il y a eu un moment où, où la banque nous a demandé de grossir l'apport qu'on avait. Et ils avaient tous nos comptes. Voilà. Donc je suis restée en face d'eux et je leur ai dit, mais vous voyez bien, vous avez tout devant vous, donc ce que vous me demandez est impossible. Mmh. Et ils m'ont répondu, oui, mais c'est comme ça. Donc je leur ai dit, écoutez, écrivez-le moi sur un papier, et si vous me donnez un papier, je reviendrai d'ici 15 jours.
Oula.
Et on a des comédiens, des régisseurs, des voisins, la famille, un monsieur qui arrivait de nulle part. Et comme il arrivait de nulle part, je vais dire monsieur Gay, et je tiens à lui dire un grand merci. Voilà, mmh. Ça existe,
c'est
des
important.
Gens comme ça,
très
des
important.
Passionnés d'art, et qui mmh. à un moment disent là j'ai envie d'aider. Et j'avais mis une parution sur Facebook en écrivant, faut pas jouer aux riches quand on n'a pas le sou. Et en fait, et ben, on a tous ensemble joué aux riches. Voilà. Ils nous ont donné les moyens de construire notre rêve familial. Mmh. Et avec le temps, ben, on rembourse la banque et on rembourse nos amis directement aussi. Mais voilà, cette histoire a été encore possible grâce à l'humain. Donc on en est arrivé à cette année blanche. Ben, la première chose a été de téléphoner à toutes nos équipes, les 17 compagnies qui nous accompagnent pendant ce festival. Mmh. Donc on était très fiers, en fait, on a réussi en plus cette année à avoir une très très belle programmation. Mmh. Et des gens complètement différents, donc il y en a qui ont les épaules pour pouvoir assumer ça, il y en a déjà, c'était un risque de venir sur Avignon, enfin voilà, complètement différent. Dans les équipes, par exemple, j'ai une jeune fille, c'est son premier festival d'Avignon, elle a 21 ans, elle a accouché 2 mois avant le confinement. Elle a une metteur en scène qui, en plein milieu du confinement, au bout d'une semaine, la lâche parce que, enfin voilà, elle peut pas assumer, elle a peur, etc. Et la jeune fille a investi tout personnellement de ses petites, voilà. Donc elle sait même pas comment elle va payer son loyer pendant le confinement, pendant qu'elle me parle. Mmh. Donc voilà. Pour moi, tout ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu appelé tout le monde et qu'on a fait un peu l'état, on a pu voir qui avait envie de continuer, qui ne pouvait pas continuer, qui ne savait pas et avait besoin d'attendre septembre. Voilà. Et ben, mon état, entre guillemets, financier a fait que quand j'ai eu fait le tour de tout le monde, je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup de gens, mais je pense qu'il ne faut pas se mentir. Chacun fait ce qu'il peut. Et ce que je peux vous jurer, c'est que si j'avais pu... rembourser toutes les compagnies de l'intégralité et leur dire on se revoit au mois de janvier et puis vous me redonnerez des acomptes et on partira, je l'aurais fait. Mais je n'ai pas les épaules pour ça, clairement. Mmh. Voilà. Mmh. Donc aujourd'hui, si l'espace roseau il est debout, c'est parce qu'une famille et des gens les ont aidés, mais aussi parce que cette année, des compagnies ont décidé de dire voilà, on ne va pas faire Paris ou on ne va pas faire notre nouvelle création, mais on va te laisser notre trésorerie et nos acomptes. Et puis comme ça, on fera le festival ensemble l'année prochaine. Voilà. C'est un énorme cadeau que me font les compagnies. Elles ne le font pas toutes. On a fait en fonction de ce qu'ils pouvaient. Chacun, on a vraiment fait au maximum. Mmh. On a eu la chance, il faut aussi être sincère, d'avoir 260 demandes sur 17 créneaux. Donc pour être très clair, j'ai 20 spectacles qui attendent. Donc toute compagnie qui peut pas, je j'ai pas le choix. Certains me disent, mais pour le coup, tu leur laisses pas le choix. C'est ou tu leur laisses ta trésorerie ou tu la reprends. En fait, je veux que tout le monde reste debout et soit. C'est un moment très difficile qu'on partage. Donc le but pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il y ait des frustrations. J'en ai et on en aura tous. Voilà. Donc il est évident que les plus fragiles, ben je vais devoir leur dire, je vous réserve un créneau pour 2022. Mais si je dois vous rendre votre trésorerie, ben, cette année, on ne sera pas ensemble. Ce n'est pas voulu. Et pour le dire, je sais très bien que ce que je suis en train de dire me tire une balle parce que ce n'est pas d'éthique. Et je fais partie du Festival d'Avignon. Et le Festival d'Avignon, on a voté, dont moi, pour qu'il y ait un remboursement des compagnies et qu'on avance, que les compagnies ne portent pas ce poids. Or, je tiens à dire, je ne fais pas porter ce poids à mes compagnies. Elles ont eu le choix. Voilà, le choix de revenir dans un an ou de me suivre cette année. Et pour dire la vérité, ça ne s'est jamais posé comme ça. Voilà. Il y en a deux qui sont en difficulté, on va les aider. Et tout le reste, elles sont là, elles sont solidaires. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, on n'aura peut-être pas notre statut, est-ce qu'on peut venir faire des stages de clown? Oui, mm-hmm. J'ai 11 semaines de résidence, de spectacles qui viennent gratuites, que je vais héberger, qui vont venir pendant l'année. Mm-hmm. J'ai 2 acteurs qui vont faire des cours, enfin... C'est pas juste garder de la trésorerie, en fait. C'est de dire, j'ai un lieu, il est là à l'année, il y a 2 salles, une de 160 et une de 90. On a un outil Et vu ce que vous me faites vivre, grâce à vous, je vais être debout. Donc, il est à vous pendant un an et on peut créer des choses. Voilà. Et pour le coup, les propositions sont démentes, en fait. Je suis hyper fière de... Et pourtant, j'y suis pour rien, hein, mais de voir la solidarité, l'imaginaire, l'aide. Voilà. Quand on accepte, en fait, les cadres, on va dire, ce qu'on ne peut pas changer, après, beaucoup de portes s'ouvrent qu'on n'avait même pas vues, en fait. Et je... Voilà, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. Et c'est très important pour moi, qui suis à Avignon pendant l'année, d'essayer de faire vivre encore plus cette année le lieu. Parce que Avignon, c'est une ville où 40% des habitants payent des impôts. Et cette année, je ne sais pas combien on va être encore debout à pouvoir payer des impôts. Donc, toute semaine, tout spectacle, toute activité, toute culture, toute vie qu'on va mettre dans la ville va faire... voilà, le Vaucluse a besoin de ça, le Grand Avignon aussi. Les Avignonnais, les commerçants, les restaurants, ils ont besoin qu'on fasse des week-ends festifs, qu'on fasse une semaine. Je crois que la maire a décidé au mois de novembre de faire la semaine de l'art. Ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on dit, et je tiens à vraiment le dire, un festival off d'une semaine. Pour être très clair, comme je l'ai dit, les locations de salles, c'est 3 semaines que les compagnies louent. Ils n'ont pas loué une semaine et on ne va pas faire venir des professionnels qui ne reviendront pas en juillet, l'année, enfin, 6 mois après. Voilà. Donc non, c'est une semaine où certains lieux vont proposer à leur compagnie, à d'autres, vont créer des événements. Et on va essayer d'en créer plein, des semaines comme ça, pour justement faire vivre un maximum la ville et le département et essayer de... Voilà, pas de rattraper, c'est impossible. Le Festival d'Avignon, ça fait presque 4 à 7 mois de rentabilité pour une ville. Donc c'est un phénomène énorme qui est en train de se mettre en place. On ne peut pas imaginer encore à quel point cette crise va avoir un impact pour nous, en tout cas. Pour beaucoup, partout. Mais puisque je suis là en plein milieu et que je le sens, je vais parler en notre nom. En tout cas, Avignon, ça va être difficile. Mais ça va être beau parce que c'est une ville qui est pleine de solidarité, qui est déjà présente. Voilà. Les masques, la nourriture qui a été livrée, tous les petits commerçants, ça a été démentiel. Et la maire, l'adjointe au maire, pour moi, sont des êtres engagés qui ont été très, 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 très présentes. Voilà. Je me suis retrouvée avec l'adjointe au maire à un moment au téléphone qui ne pouvait pas me parler parce qu'elle faisait des paquets pour aller livrer les repas dans les maisons de retraite, quoi. Bon, ben voilà, des gens comme ça, t'en trouves pas énormément. Et j'ai été très fière de voir tout ce qui pouvait se passer. Je fais pas de politique et je suis très loin de tout ça. Et voilà. Mais après, quand les gens aident et le social me touche, donc forcément, ça me parle.
Waouh!
Voilà. Ah ouais, elle m'a demandé si j'avais des choses à dire. Je vis dedans.
Alors, il y a plein de choses. Premier point, il y a des chroniques qui parfois, sans explication, se transforment en émission spéciale. Et là, je crois que ce n'est plus une chronique dont on parle. On va parler d'une émission spéciale parce qu'elle est vraiment très très forte et très conséquente. Deuxième point, il est vrai, comment dire, qu'Avignon, d'après les chiffres qu'on a, représente 100 millions d'euros pour ce qui concerne le festival In, Off et In. Et ce que tu dis est très vrai parce que la ville, l'économie de la ville, du Grand Avignon, même du Vaucluse, est basée là-dessus. Troisième point, je commence à prendre conscience dans plusieurs événements importants que Cannes 2021 ou qu'Avignon 2021, ça va être, comme j'avais dit à un moment donné, la fête de musique 2020 ne sera pas la même. Ça va être une fête de la libération. Ce qui est un peu triste, c'est qu'à un moment donné, ça a été annulé. Puis maintenant, on a le droit de la refaire. Ça devient un peu complexe. On a le droit de faire, mais on a le droit de faire à moins de 10 si c'est pas privé, enfin, etc. etc. Moi, je te dis bravo, parce que quand on a lancé notre chronique « Toute vérité est bonne à dire » le 29 février, on ne pensait pas qu'elle allait prendre une importance si conséquente. Et là, vraiment, ce que tu viens de dire, je ne sais pas s'il faut le mettre dans le spectacle vivant ou « Toute vérité est bonne à dire », parce que tu as dit des vraies vérités. Ça veut dire qu'on dépasse le stade du spectacle vivant, on dépasse le stade de la culture. Tu insistes beaucoup sur l'humain. Et l'humain, c'est ce que disait un monsieur pas très connu qui s'appelait Jean Villard. Et qui s'appelle toujours Jean Villard. Ça veut dire qu'on va revenir, excuse-moi du mot, hein, on va revenir aux fondamentaux de ce qu'était et de ce qu'est le Festival d'Avignon.
Oui, oui, oui. Mes parents, ils sont en Normandie et aussi, ils ont leur petit espace, enfin leur grand espace à eux, ils ont repris une caserne militaire et ils l'ont appelé le théâtre populaire de Verneuil. Donc Jean Villard, j'ai été baignée dedans et voilà. C'est quelque chose qui a pour moi énormément de sens. Après, je pense que de toute façon, tous les arts, quels qu'ils soient, ont une nécessité de l'art vivant. Le vivant, c'est pas uniquement parce qu'on est vivant sur scène. C'est parce que normalement, on va faire vibrer toutes les parties, tous les sens vivants de la personne qui est en train de nous écouter, de nous observer. Quand quelqu'un repart, il est chargé d'une émotion. Et pour moi, être vivant, c'est avoir des émotions. Donc voilà, il y a un vrai sens, je trouve, dans tout ça. Et si tu me le permets, puisque tu as parlé d'économie et de vérité, il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner, qui est notre point faible, mais qui peut être aussi une force. C'est que on a parlé du Yin, on a parlé du Festival de Cannes. C'est totalement différent au Festival d'Avignon Off, parce que c'est des organismes qui ont un directeur artistique qui choisit une ligne artistique, etc. Et puis qui tient tout, c'est-à-dire qu'il y a un budget et qui prend ce budget pour faire venir des spectacles, des films, des voilà. Le Festival d'Avignon, c'est des privés, des théâtres privés, quels qu'ils soient. Il y en a quelques-uns, par exemple le théâtre des Dons qui est de Belgique, qui est un théâtre d'État, on va dire. Mais il y en a très peu, donc finalement c'est des théâtres privés qui vont louer des créneaux. Et toute petite compagnie, grande compagnie, compagnie française, 1500, c'est énorme.
1590, je crois, c'était impressionnant.
1590, l'année. Voilà, venus de toute la France, voire même principalement de la France, sous toute art et forme. Des fois il y a de la danse, il y a du woman show, il y a du dramatique, il y a vraiment du clown, enfin il y a de tout, et vont payer, mais vont payer leur habitation, leur nourriture, leurs régisseurs, leurs affiches, leurs caissiers, vont aller tracter, donc distribuer des prospectus pour faire la pub de leur spectacle, et c'est comme ça qu'ils remplissent leur salle. Et puis si les spectateurs sont présents, remplissent. Ils font tout ça pour une seule raison, c'est que tous les programmateurs de France descendent au festival, vont faire leur marché. Donc évidemment, un spectacle qui est plein, ben on va l'acheter, on va avoir envie d'aller voir le spectacle plus facilement, on va dire. Il y a beaucoup de professionnels qui ont l'habitude et qui savent dénicher les pépites sans avoir besoin d'avoir beaucoup de gens dans les foules aussi, heureusement. C'est ce qui fait aussi que le festival est magique et que tout est possible, et qu'une compagnie qui n'est absolument pas connue peut arriver et peut être complètement propulsée. Mais si je parle de tout ça, c'est qu'il faut imaginer l'impact. C'est-à-dire que nous, il n'y a personne qui peut dire réellement j'annule le festival. En tant que membre du conseil du Festival d'Avignon, on n'a pas annulé le festival. On a fait un état des lieux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand Monsieur le Président dit à partir jusqu'au 15 juillet, aucun gros festival ne sera là, et puis quand on commence un peu à creuser et qu'on nous dit attention, cette date n'est pas la deadline, on peut la repousser. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse 1600 compagnies aller dans le mur? Où on formule, et là je trouve que Pierre Beffet a eu une énorme intelligence, non pas de dire j'annule, on annule, mais de dire, vu et suite du discours de Monsieur le Président, l'association Festival d'Avignon ne peut pas assurer l'organisation. Donc à partir de là, on pense qu'il faut annuler. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a retiré notre outil. À partir de là, laisser toutes les compagnies aller dans le mur. Parce qu'il faut comprendre, si ce festival, entre guillemets, il passe à 2 semaines au lieu de 3, vu les locations de salles, les compagnies n'assureront plus leurs chiffres et seront en déficit. Si on repousse le festival, les programmateurs ont dit qu'ils ne seraient peut-être pas présents, etc., etc. Donc au bout d'un moment, ça s'est fait. Si j'insiste là-dessus, c'est que, par exemple, le IN, je pense... je me mouille et je me mouille trop, c'est qu'une réflexion. Et je veux vraiment qu'on le prenne comme une réflexion. Je pense que le IN a une subvention, et je pense que si le IN fait un petit festival avant la date, mettons, de janvier, il pourra utiliser sa subvention, il en aura une autre l'année prochaine. Je pense que le IN n'a pas que des spectacles français, il a aussi des étrangers. Donc finalement, s'il garde que ses français, il peut très bien faire un festival d'une semaine, au mois de novembre, au mois d'octobre, l'année prochaine. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Ce n'est pas la même chose. Totalement. Le Festival de Cannes, c'est encore autre chose. Voilà. Et ça, c'était important parce que on a toujours l'impression, voilà. Si j'insiste aussi là-dessus, c'est parce que de temps en temps, quand le Festival d'Avignon demande des subventions à la création, à l'aide, on nous dit, attention, vous n'êtes pas un festival. Donc, cette année, on nous a aussi des fois un peu reproché de prendre des décisions, etc., parce que c'était une année difficile et que ce coronavirus nous a demandé de se positionner. On l'a fait en tant qu'association, dans la bienveillance et dans la protection de tous. Voilà. Et on a essayer de faire comprendre aux gens que mon lieu, il a l'argent des compagnies. Donc les compagnies, comment elles font pour faire leur cachet, leur création cette année, comment elles font pour tenir. Les techniciens de mon lieu, s'ils font pas le Festival d'Avignon, vont perdre leur statut. Vous pouvez même pas imaginer les chaînes et les chaînes et les chaînes de métiers qui vont se retrouver en difficulté à cause de l'annulation de ce festival. Voilà. Alors, sans parler de la restauration des hôtels, enfin de tout ce qui engendre et qui accueille et qui... voilà. Donc c'est en ça où je pense que cette problématique, elle a été, mis un peu... Elle est à l'image et de ce qu'on va vivre, je pense, sur tous les secteurs. Mais l'impact a été très fort tout de suite. Si tu annules un mois et que d'un coup tu annules une année, forcément ça a un impact considérable.
Tout à fait. Alors, moi j'ai une question très gentille à te poser parce que j'ai été catastrophé, je l'ai dit, parce que dans le domaine de tout ce qui est journalisme, radio, presse, médias, je trouve qu'il faut faire très attention quand on dit les choses. Il y a eu une grosse bêtise qui a été dite, c'est quand Olivier Py a annoncé lundi soir l'annulation du Festival d'Avignon, certains se sont permis d'aller faire des commentaires disant que c'était même le off qui s'annulait. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Est-ce qu'à un moment donné, le off aurait pu vivre sans le in?
Alors, disons que si je dois répondre précisément à la question, le premier mot va être « bien sûr ». Et en fait,
ce sont deux festivals différents, on est d'accord.
Ce bien sûr. Oui. Il est. En fait, on va revenir sur l'histoire du festival. C'est que il y a eu le Festival d'Avignon. Point. Et puis c'était le IN. Sauf qu'il n'existait pas en tant que IN. Il existait en tant que Festival d'Avignon.
On est d'accord.
Et puis le OFF est arrivé et c'est venu se greffer. Le IN achète des spectacles et les met dans des très beaux lieux de patrimoine, on va dire, sur Avignon. Le OFF, c'est des gens qui ont dit « Ouh là là, il y a du potentiel, pourquoi je ne prendrais pas ce garage ou ce lieu-là qui me paraît, ou cette petite chapelle, je vais en faire un lieu. Et puis moi aussi, comme il y a des spectateurs et des professionnels, je vais présenter des spectacles. » Il se trouve que ça a pris. Mais on s'appelle OFF uniquement parce qu'il y avait ce festival. Quand le Festival d'Avignon parle en tant que Festival d'Avignon, on ne peut pas lui en vouloir. Par contre, pardon.
Oui,
en plus avec vous au bout du téléphone, j'en veux aux journalistes de faire l'amalgame parce que là sincèrement il n'y avait pas de préjudice. Par contre, quand le Festival d'Avignon finit et qu'il a lieu donc l'année dernière ou l'année prochaine, il se trouve que le IN finit toujours 4-5 jours avant le OFF.
Le 23 juillet pour ce qui concerne 2019 et le 28 juillet pour ce qui concerne le OFF.
Et donc ces jours pour nous sont des jours hyper importants. S'ils n'étaient pas importants financièrement, on ne les mettrait pas. C'est un dépassement. Les compagnies jouent, ils ont un jour de relâche et ils vont par semaine et ils vont jouer non-stop. Certains acteurs ont 2-3 spectacles par jour. C'est dément ce qui peut se passer. Donc sincèrement, si on avait pu réduire d'une semaine, on l'aurait fait. On ne peut pas parce que c'est une question de rentabilité. Donc à partir de là, quand les journalistes annoncent le Festival d'Avignon est fini, on a une chute des fois de 20, mais des fois de 40-60% de fréquentation des spectateurs. Et c'est un impact réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de jouer sur... j'ai envie de vous dire, même limite, si le IN n'avait pas de spectateurs, pardon pour le IN, et sincèrement, j'ai tellement un respect énorme pour ce qui est mis en place, ce qui est fait pour Olivier Py, son travail, enfin, voilà, donc je suis pas du tout en train de dénigrer. Ce que je dis, c'est juste un plan financier, voilà, en tout cas, ça aurait moins d'impact sur une culture globale du théâtre en France, on va dire ça comme ça.
Je trouve que c'est très juste, il y a des gens qui viennent uniquement pour le IN, il y a des gens qui viennent uniquement pour le OFF, et il y a des gens qui viennent pour le IN
pour les deux.
Et le OFF. Alors, je voudrais juste rappeler qu'on n'était pas très nombreux, mais on était quand même présent avec le fil rouge. Alors, le fil rouge de 23 juillet à 22h, on s'est retrouvé devant le Palais des Papes et on est parti à pied, en n'étant pas très discret, et on s'est baladé dans les rues pour rejoindre tout simplement le village du OFF. C'est tout. Ce qui veut dire qu'il y avait un lien naturel qui se faisait entre le Palais des Papes où le Festival IN venait de se terminer et le flambeau, entre guillemets, qui était passé pour la fin du OFF. Donc ça, c'est important. C'est vrai que c'est très, très important que tu le signales. Et vraiment primordial, quoi. Ce sont deux choses différentes.
C'est dommage parce que Parce qu'il y a une vraie connivence, c'est-à-dire que ce que fait Louis, on ne pourrait pas le faire, le off. On a des scènes nationales qui viennent, etc., mais il y en a très peu par rapport à ce que... Enfin, voilà. Et puis, il y a de l'expérimentation, il y a des spectacles. Enfin, voilà. Et surtout, encore une fois, si on parle humainement, on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'un spectateur, je pense, réellement amoureux du théâtre, aura toujours envie de voir un chef-d'œuvre du in, un chef-d'œuvre du off. Ce n'est pas les mêmes résultats et ils sont amoureux des deux. Donc, si les spectateurs ont réussi, eux, à nourrir les deux, pourquoi nous, on n'arriverait pas à cohabiter? Et surtout, c'est le cas de plus en plus. Hein. On a tous grandi avec ce festival. Enfin, moi, je suis arrivée, j'avais 3 ans, j'en ai 40, donc je suis vraiment une enfant du festival. Et je me rends compte qu'artistiquement, Olivier Pie, je l'ai toujours presque vu sur place. Pourtant, voilà, donc c'est... On a des passions communes tous et je pense que plus on partage et plus les passions prennent de force et de sens. Et voilà, faut pas avoir peur des fois que les choses nous échappent. Elles ont un chemin, je pense, à faire d'elles-mêmes aussi.
J'entends encore ce matin sur une radio qui disait malheureusement, à un mal, il peut y avoir un bien. Et c'est vrai que cette année blanche, moi j'aime bien cette notion d'année blanche, parce que c'est pas complètement une annulation. Cette année blanche permet de réfléchir, de trouver de nouveaux concepts. Une des dernières questions que je voudrais te poser, c'est une interview que j'ai réalisée vendredi dernier, qui est en ligne sur Direct en jeu, la radio insolite, avec Philippe. Et Philippe donnait l'exemple du Théâtre Apollo de Paris, qui a mis en place un système où le comédien va se produire devant 20 écrans PC, avec 20 personnes qui ont payé 8 euros symboliquement pour assister à ce spectacle et la salle est vide.
Je dois y répondre. Non, en fait,
moi, je vais t'aider un tout petit peu. Moi, j'ai dit pour moi, le spectacle vivant, c'est vivant et les spectateurs, le public est dans la salle. Mais
en fait, il y a quelque chose. Quand j'étais petite, des fois, j'avais du mal avec le Festival d'Avignon. Il prenait beaucoup d'énergie à mes parents. Mmh. Et mon père, je sais, un jour, on était à 6 rue des Teinturiers, justement, sur ces espèces de gros blocs taillés. Et il me regarde comme ça et il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis « Ben, c'est difficile, Avignon, en fait. Je vois beaucoup de gens qui traquent, qui se dépassent. » Et il me regarde comme ça et il se met à claquer les doigts toutes les secondes. Et je lui fais « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me dit « À chaque seconde, t'as quelqu'un qui se met en danger sur scène.
Ouais. »
Avignon, c'est ça. Ouais. Ça veut dire qu'on a des remparts tout autour et que pendant le Festival d'Avignon, de 9h du matin jusqu'à 1h du matin, réellement, on peut toutes les secondes claquer les doigts. À chaque claquement de doigts, il y a un être humain qui est en train de se mettre en danger sur une scène. Parce qu'il ne sait plus où il est, parce qu'il est dans un état où il ne sait même pas le mot qui va sortir derrière, tellement qu'il est sincère, tellement qu'il est dedans. Ça n'arrive pas tous les jours, et même en tant qu'actrice, il y a même des jours où je sors en colère parce que justement, je n'ai pas réussi à toucher cet état. Mais quand on y arrive, c'est magique. Et ben, j'ai la certitude que sur 1600 spectacles, à chaque seconde, il y a quelqu'un. Est-ce que ça vibre à travers un écran? Peut-être. Je fais partie de ces gens qui ne sont jamais allés sur un site de rencontre pour rencontrer l'homme de ma vie. Je l'ai rencontré rue des Teinturiers. Donc j'ai eu cette chance-là. Je ne fais pas partie de ce mode-là. Après, je le juge pas. Et j'ai vu ma fille pendant le confinement regarder des spectacles à la télé qu'elle aurait jamais regardé autrement parce que c'était là. Voilà. Donc je me suis moi aussi fait des fous rires adolescente devant Le Père Noël est une ordure. Enfin, voilà. Donc il y a aussi des moments de grâce. J'ai plus peur pour les acteurs, en fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vit sur scène, c'est une circulation d'énergie. Et vous pouvez pas imaginer ce que vos souffles, votre façon même de crisper la main, de vous retenir, de ne pas bouger, enfin, voilà, tout ça, c'est une énergie qu'on palpe, mais qu'on ressent, qui des fois nous, enfin, voilà, c'est transcendant. Et je ne sais pas si pour le coup les écrans peuvent donner ça à un acteur. Donc pour moi, il y aura peut-être des acteurs qui seront capables de transcender ça une fois, deux fois, dix fois. Mais je ne pense pas qu'on peut faire comme le Festival d'Avignon, par exemple, 26 représentations d'affilée, en ayant cette chair de poule, en tout cas sur scène. Et si tu l'as pas sur scène, comment tu fais pour la donner aux spectateurs qui sont en face? Après, il y a des magiciens dans la vie. Donc tout est possible. Et peut-être qu'on va s'apercevoir que, justement, si c'est du sens, on éveille des sens. Moi, on m'a appris un petit secret, c'est que notre cerveau, en fait, en tant qu'être humain, un enfant, par exemple, si je suis en face de vous et que je me gratte la tête, pour me gratter la tête, mon cerveau, il a activé des zones.
Bah oui.
Si vous êtes en train de me regarder, votre cerveau, il active les mêmes zones. Ce qui vous permet, quand on est un enfant, d'avoir envie de marcher, de regarder qu'on marche ou de parler et d'essayer. Parce qu'en fait, l'effet miroir, ça a un terme précis, je connais que miroir dans le terme, mm-hmm. mais bon, voilà, te donne cette faculté. C'est comme ça que l'être humain apprend, en fait. Sauf que ça crée l'empathie aussi. Et c'est pareil sur les sentiments. Ça veut dire qu'un acteur qui est sur un plateau, qui a de vrais sentiments, qui ressent vraiment les choses, il va activer dans son cerveau des zones. Et le spectateur qui est assis, eh ben, c'est comme ça. Ça lui active les mêmes zones. Il les prend pas, il y va, il n'y va pas. Ça sera un choix. Voilà. Donc, si ça trouve, on va se rendre compte qu'en filmant de telle façon, avec tel axe, en faisant ça précisément, en mettant des odeurs peut-être, eh ben, le spectateur, par d'autres outils, se retrouvera lui aussi complètement dans des émotions. Enfin, voilà, on ne sait pas. Peut-être que ça sera possible et que dans 5 ans, on aura une forme de théâtre à travers un écran. Je ferme la porte à rien, mais j'adore mon lieu et j'adore les gens qui y rentrent pour venir s'asseoir et pour pouvoir se mettre en danger sur scène.
Il y a deux réflexions qui sont super. La première, c'était Sarah Bernard qui disait à une jeune actrice, quand on a le trac, c'est qu'on a du talent. Et le trac, on ne peut l'avoir que quand il y a du public. Et le deuxième, c'est Thierry Frémaux, au moment où il y avait la grande discussion sur Cannes, qui a dit « Le cinéma hors d'une salle du cinéma, ça n'est pas du cinéma ». Et c'était très joli à dire parce que c'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes partages avec le public, avec le voisin à côté, etc. Écoute,
c'est un petit peu le dommage, je trouve, si je peux me permettre,
oui.
des cinémas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on arrive à l'heure actuelle dans une salle de cinéma, personnellement, je préfère un vidéoprojecteur, même dans une forêt sur un drap ou quoi que ce soit, j'aurais l'impression d'être plus au cinéma que ce que sont les cinémas à l'heure actuelle. Chez soi, on mange du pop-corn, on fait du bruit, on a le téléphone qui sonne, on parle à son voisin, il n'y a pas de problème. Le cinéma, c'est une salle où justement le contexte te fait rentrer dans le film. C'est-à-dire
oui.
où tu ne bouges plus, où
Et
tu
oui.
ne parles plus, où tu ne fais pas de bruit pour l'autre, pour justement avoir une concentration, d'où ce gros fauteuil molletonné, d'où ce son, d'où cet écran qui est en face. C'est un voyage spatial. Hein. Tu montes dans une navette et tu t'en vas.
Ah,
et il y en a qui se permettent de manger des petits pop-corns derrière mon oreille qui font que toutes les 2 minutes, ben, on me ratterrit. Donc j'ai une demande, que ça soit au théâtre, que ça soit au cinéma, laissez-nous voyager. Voilà.
Juste pour info, l'économie du cinéma, je vous rappelle, passe par le fait de vendre ses friandises et ses boissons avant de rentrer dans la salle. Et c'est comme ça qu'ils gagnent parfois beaucoup d'argent. Comme tu dis. Moi, je voulais te remercier. Je ne m'attendais pas du tout à un rendez-vous aussi riche, aussi authentique, aussi vrai. Je voulais vraiment te remercier pour tout cela. Et puis, je voulais faire aussi un petit clin d'œil à quelqu'un que tu connais bien. Je voulais faire un petit clin d'œil à William Malatra, parce que c'était le metteur en scène et l'acteur de Quel beau dimanche l'an dernier dans ton théâtre à toi. Et moi, j'avais eu le plaisir de le rencontrer en Avignon. Et puis, autant dire que moi, je n'attends maintenant plus qu'une seule chose, c'est vivement 2021. Je crois que même je vais me permettre le culot d'arriver une semaine avant pour regarder les coulisses, les répétitions, parce que je crois que 2021 pour Avignon, pour le IN, le OFF, le IN, le IF et bien d'autres, ça va être assez extraordinaire. Moi, en tout cas, ça me fait déjà rêver, ça me fait déjà avoir les yeux.
On est ouvert 15 jours avant le festival, on accueille tout le monde, on enlève les espaces de peaufinement des spectacles. Voilà, ils ont 8 heures dans les salles chacun pour pouvoir finir de créer, etc. Puis il y a toutes les petites mains, toutes les stagiaires qui arrivent, l'accrochage des affiches dans la rue qui normalement devrait être fini cette année.
Les managers, je fais un petit clin d'œil à Charlotte Calmel aussi, avec qui on agit depuis plus d'un an. Juste une dernière chose, vous savez qu'actuellement, comme on a le droit de faire un maximum de 100 km autour de chez soi. Si ça se décoince, je vous rappelle que comme nous allons clôturer ce dimanche notre chronique Cannes sans le festival, qu'on n'a pas pu faire à Cannes puisqu'on ne pouvait pas se déplacer, si ça se décoince, eh bien j'ai toujours prévu, non pas d'être présent le 3, mais d'être présent du 10 au 17 juillet en Avignon pour faire Avignon sans le festival. Je crois que c'est important quand même d'être présent. Il y en a certains qui ne disent plus rien durant cette période. Bien au contraire, je pense que, comme tu viens de le faire toi, cette réalité, ce fait du vivre tous les jours et tous tous les jours ensemble, elle est importante. Merci à toi. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Comment on fait pour retrouver le théâtre, l'espace Roseau?
Eh ben,
c'est vrai, j'avais oublié.
En fait, au début de l'interview, tu m'as demandé pourquoi la rue des Teinturiers.
Oui.
La rue des Teinturiers, c'est une petite rue, un petit peu colimaçon, avec la Sorgue, tout simplement, oui. qui coule, des roues en bois ancestrales, j'allais dire.
Une rue piétonne,
moi,
le bonheur.
Parce que j'avais 3 ans la première fois que je les ai vues, donc elles font partie de mon patrimoine. Et puis, voilà, c'est une petite rue où, en tout cas, dans mon enfance, j'ai un souvenir de que tous les gens, quand ils avaient fini de travailler, venaient boire un petit punch, écouter un peu de musique. Hein. On a des chouettes restaurants, il y a vraiment une ambiance... ça se détend, voilà. C'est l'endroit où après le festival, après un spectacle, avant de replonger dans un autre, on vient un petit peu à l'ombre se poser et voilà. C'est un endroit, en tout cas pour moi, qui a beaucoup de sens, où il n'y a pas de voiture, évidemment, c'est que piéton. Mais voilà, donc voilà. Pourquoi la rue des Teinturiers? Et ben voilà, donc elle est assez centrale et vous allez la trouver sur tous les plans d'Avignon. Voilà.
Donc, rue des Teinturiers, pour venir sur site, le site internet peut-être?
Alors, le site internet, c'est espaceroseauteinturier.fr.
La page Facebook?
Tout en minuscules. Et la page Facebook, c'est pareil, c'est espaceroseauteinturier.
Et on peut voir des publications, des vidéos, plein de choses.
On essaye, en tout cas. On essaye aussi d'être...
c'est le théâtre 5.0. Voilà.
Ben merci en tout cas à vous, merci de l'écoute, de l'envie, de la curiosité. Voilà, on peut pas. Peu de gens nous posent les questions. Et c'est vrai que si on est passionné, c'est toutes ces choses nous ont affectés. Donc ça fait énormément du bien de les partager et d'avoir des gens que ça intéresse. Donc c'est un merci voilà, du cœur et qui a vraiment beaucoup de sens pour nous.
C'est un choix délibéré. Je pense que j'en discutais avec une personne que j'ai rencontrée avant de m'aérer en Ardèche, puisque je suis en Ardèche actuellement. Et je disais à la personne qu'il y avait deux types de journalisme, et je le respecte tout à fait, des journalistes qui vont faire des petits sujets d'une minute, 30 à 2 minutes, qui vont faire des montages, etc. Et puis d'autres qui veulent aller un peu plus loin. Et moi, j'aime bien aller un peu plus loin pour aller un peu plus en profondeur. Mais là, je crois, sauf erreur, qu'on vient de dépasser le stade des 42 minutes. Donc une émission spéciale
44.
Assez... 44, ouais. Une émission spéciale assez extraordinaire que je ne vais même pas couper parce que tout était bien, tout était vrai. Et moi, j'adore ça. Ok. Je te remercie. Je vous rappelle que nous avons tout simplement... un double enregistrement et je veux voir ce que je vais en faire. Je suis désolé, l'écran n'est pas complètement calé puisque j'étais calé sur mon logiciel d'enregistrement audio. Je vais saluer tous ceux qui regardent la vidéo. Et puis voilà, la vidéo est coupée et dans quelques instants, eh bien, c'est la partie audio qui va être coupée. Merci, rendez-vous très très vite pour plein de bonnes choses et bon week-end à tous.